Je m'appelle Aurore, j'ai 25 ans, donc je suis jeune diplômée et actuellement en recherche d'emploi.
Bah voilà, bah moi ce que je pense des hommes, premièrement j'étais mariée deux fois, j'étais très déçue, mais ça c'est rien, l'échec sentimental ça arrive à tout le monde.
Bon, en tant que femme, on voudrait être entre guillemets parfaite.
Je travaille dans le commerce, j'ai un enfant, je suis divorcée.
Cette émission radio est entièrement réalisée par des femmes, sur des femmes, et s'adresse à tout le monde. Retrouvez l'émission Elle cause sur Radio PFM.
Chaque premier lundi du mois sur PFM à 21h30, rediffusion le jeudi à 16h et dans la nuit du jeudi au vendredi à 1h du matin.
Elle cause.
Bonjour. Vous êtes sur Radio Campus 106.6 et vous écoutez Elle cause, une émission faite par des femmes, sur des femmes et pour tout le monde.
Donc aujourd'hui, on va écouter la deuxième émission sur un thème qui nous est cher, les migrantes de la première génération. Donc l'immigration est un phénomène très... On est présent en France. Mais nous, on a voulu surtout se consacrer au vécu des femmes. Donc, vous allez entendre des témoignages de femmes venues d'horizons divers, qui ont un parcours très différent les unes des autres, qui sont d'âges différents également.
Donc, le mois dernier, on a entendu 8 migrantes nous parler de la représentation des migrantes dans les médias, de l'image que leur renvoie la France sur la beauté corporelle, de leur rapport à leur communauté et aux codes culturels divergents, et aussi leur rapport aux institutions. Aujourd'hui, elles nous parlent de leurs relations amoureuses, de la réaction de leur famille et pour certaines de leur belle famille quant à leur choix. Elles nous diront aussi ce qu'elles aimeraient transmettre à leurs enfants de leur culture. On terminera ce documentaire avec ce que le terme « intégration » évoque pour chacune.
Nous avons recueilli donc les témoignages de Catherine qui est arrivée de Pologne à 6 ans avec ses parents, donc au début des années 30. Nous avons aussi interviewé Tsukasa, donc, qui est japonaise, elle a 35 ans et elle vit depuis 2 ans et demi en France.
Donc on va entendre aussi Marie-Lou qui, elle, vient de l'île Maurice pour rejoindre son futur mari, voilà une dizaine d'années. Il y a aussi Myriam, 24 ans, qui est arrivée en France du Maroc à l'âge de 18 ans, elle.
Vous entendrez aussi René, qui est guadeloupéenne d'une trentaine d'années, tout comme Loreto d'ailleurs, chilienne, et qui sont toutes les deux en France depuis 5 ans. Vous entendrez aussi Elisabeth, française de métropole, qui est partie s'installer à Wallis avec son mari foutounien à la fin des années 70 et qui en est repartie 20 ans après, en 99.
Enfin, nous avons recueilli le témoignage d'une mère au foyer algérienne installée depuis 1984 en France. C'est parti pour le docu.
Mais avant, c'était drôle parce que quand j'arrivais ici, j'ai jamais cru que je vais me marier avec un Français. Tu vois, j'imaginais pas non plus avoir un copain français. Mais bon, après, quand j'ai connu Justin, c'est vrai que. Parce que c'était la première fois que je sortais de mon pays. J'avais jamais été dans un pays différent à le mien. Donc, je disais. Non, je ne savais pas comment c'était les coutumes d'ici, tu vois. Mais bon, Justin, il est quand même... il n'est pas le français, la norme. Hein. Je pense qu'il sort de la norme des Français. Hein. Il est très particulier. Il n'est pas le typique français. Non, il sort de la norme.
Actuellement, par exemple, je vois plus ou moins 3 personnes de manière plus ou moins régulière. Et au fait, dans ces 3 personnes, il y a 2 mecs et une fille. Et dans l'interview, je tiens à le préciser dès maintenant... Je parlerai peut-être souvent beaucoup plus des mecs que des filles, parce que c'est tout récent dans ma vie que je sorte avec des meufs.
J'ai jamais été avec un Marocain, et du coup, oui, j'ai toujours été avec des personnes, j'allais dire françaises, mais je suis sortie aussi avec des gens qui n'étaient pas français, des Espagnols, voilà, des Européens, on va dire. Est-ce que j'ai une attirance spécifiquement pour des personnes européennes? Je sais pas, enfin, c'est plus... C'est des personnes que je rencontre qui m'intéressent et qui m'attirent sur le plan intellectuel ou physique ou sexuel. Et du coup, de fait, il se trouve que les personnes qui m'ont attiré jusque-là n'étaient pas des personnes marocaines. Mais en sachant que quand j'étais au Maroc, je sortais avec des Marocains et qu'il y a plein de Marocains super chouettes et que tous mes amoureux quand j'étais au Maroc étaient Marocains. Mais, Et puis je me rends compte aussi que les mecs que je drague ou avec qui je sors sont plus ou moins dans mon réseau affinitaire. Et mon réseau affinitaire, c'est un réseau militant. Et qui du coup sont fortement blancs, quoi. Enfin, ils sont quasi exclusivement blancs. Je sais pas comment le dire, en fait. Il y a une partie de rejet, en fait, d'un certain cliché du mec arabe. Des espèces de préjugés, de stéréotypes qui sont ancrés en moi. Enfin, c'est des choses, j'ai beau être arabe aussi et être plutôt dans la défense de la diversité des personnes et tout ça. Mais il y a quand même un truc qui te marque, en fait.
Est-ce que le fait de, du coup, de pas venir du même endroit, que, d'être, que toi tu sois pas blanche et que les personnes avec qui, personnes que tu fréquentes, quoi, on va dire, elles le sont, est-ce que tu penses que ça a une incidence sur ta relation avec ces personnes-là ou pas forcément ou...
Alors, comme ça, spontanément, je dirais que non. Parce que justement, je suis plutôt dans des. Enfin, je pense que c'est plutôt moi, en fait, qui suis, du coup, dans des codes européens, entre guillemets, ou dans des normes européennes. Bah, ouais, dans les représentations sociales, en fait. Clairement, vu que je suis pas dans les représentations de ce qu'est censé être une petite nénette rebeu, bah, de fait, la perception des gens autour de moi, j'ai l'impression qu'ils me perçoivent comme une blanche. Alors, de toute façon, ma gueule, elle trempe pas, j'ai pas une gueule de blanche, mais plutôt dans une manière d'être, une manière de vivre. J'ai les codes d'une personne qui vit ici.
Oui, on n'a pas la même culture, on ne voit pas les choses de la même manière, on ne fait pas forcément le même projet que qu'on a les gens de chez moi, quoi. Donc, on ne voit pas l'amour pareil non plus. Oui, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas du tout pareilles. Et c'est vrai que souvent, ça crée plutôt des conflits qu'autre chose. Et il faut un petit moment pour remettre aussi les choses dans l'ordre, pour essayer de se faire comprendre. Et ouais, ce n'est pas très simple non plus. Hein. C'est pas très simple. Non.
D'abord. Il y a la différence de goût de nourriture. C'est vraiment important pour moi. Nous, on mange trois fois ensemble, deux fois, mais chaque fois, c'est un peu bataille. Moi, je veux manger du riz de matin, mais lui, il veut manger du gâteau. Et puis le soir, je ne veux pas manger beaucoup de viande, mais si mon petit ami veut manger chaque dîner de la viande, donc si j'habite avec un petit ami japonais, il n'y aura pas de problème comme ça. Mm-hmm. Et puis que peut-être il y a aussi le problème de la langue. Je ne peux pas arriver à m'expliquer très détaillé en français. Lui aussi, il parle en japonais, mais il peut expliquer que des choses très simples. Donc, ça, la communication est toujours difficile pour nous.
C'est-à-dire, moi, je ne pense pas que les gens adorent la mixité. Tu vois, et ici comme ailleurs, hein, ouais. c'est pas plus ici qu'ailleurs. Hein. Mmh. Je crois que c'est quelque chose dont les gens se méfient. Mmh. Pour quelle raison? Par exemple, mais ça je sais pas si c'est personnel ou c'est toujours comme ça. Par exemple, des personnes qui vont pas te parler directement, par exemple. Tu vois, tu es là et ils parlent à ton mari. Tu vois le genre, c'est quand même un peu bizarre de dire, non c'est pas correct, de dire est-ce qu'elle veut, tu vois, par exemple, tu vois, c'est très désagréable, ouais. Au moins désagréable.
Ah ben oui, c'est ouais. Ça.
C'est plus vis-à-vis d'ailleurs des autres, hein. Je pense que c'est plus un peu les autres qui peuvent, parce qu'ils ont une mauvaise opinion des couples mixtes, parce que qui vont un peu finir par user, oui. Oui, on parle tout le temps des problèmes qui se posent à cause des différences culturelles, mais au contraire aussi, les différences culturelles peuvent faire qu'on va avoir une cuisine beaucoup plus variée, hein, les deux, la musique, pareil, plein de choses comme ça.
Alors, est-ce que tu as l'impression que tu aurais pu indifféremment être amoureuse ou en couple avec quelqu'un qui vient du même pays ou d'un autre pays?
Oui. Ben, je crois la preuve c'est que ça m'est arrivé d'être, c'était pas du tout prévu comme ça, hein. Franchement, c'était vraiment pas ça semblait même aller, en plus à l'époque c'était quand même très 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 très, très difficile, hein, pour une Algérienne d'épouser un Français, c'était très mal vu. pour des raisons d'ailleurs qui s'expliquent. Hein. Il y a eu la guerre, il y a un passé commun quand même très plus que conflictuel, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense que l'être humain préfère rester entre soi. Nella piazza un gran groviglio, tutti corrono, gridano, piangono, perché dentro casa non è successo niente. Ma lì si rende le grida, la puzza e il fumo si sente. Assassini, assassini, continuano a gridare. Arrivano due uomini con le magliette chiare. Piangono, tossiscono, non sanno più parlare. Si becchia per terra, la testa sullo scalino, le braccia poi in avanti, ma come per chiamare? La testa resta indietro, tutta lontana. Le gambe stanno lì, ma come di nessuno. Una donna anziana grida, uscendo da un portone. Assassini, assassini, e ferma due cellini. Une fois que j'aimais quelqu'un, oui. Noir, blanc, ou ça ne me dérangerait pas de ma famille, non. Mais par contre, ce n'est pas par racisme, c'est parce qu'ils ne comprenaient pas le français. Oui. C'est rien que pour ça. Ils ne voulaient pas parce qu'ils n'arrivaient pas à parler comme eux, quoi.
Bah, la réaction de ma famille a été très négative. D'abord, quand je me suis installée avec mon mari, avec mon copain en France... je me suis engueulée, disputée très fortement, très violemment avec mes parents, notamment ma mère, puisque c'était quand même elle qui dirigeait un peu le couple. J'ai entendu des choses comme « j'étais plus digne de porter le nom que je portais » et « bonne à aller faire le trottoir ».
Pourquoi ?
Alors pourquoi ? Bah parce qu'il était noir et que, en plus je n'avais pas l'intention de me marier. Mais ma mère n'a jamais vraiment accepté sa couleur, en fait. Alors, au moment où je me suis mariée, j'ai prévenu que je me mariais. Et là, ma mère, pendant un an, m'a écrit, alors que j'avais envoyé les photos, elle m'a écrit sous mon nom de jeune fille. C'est-à-dire que je m'appelais Madame, et je recevais sans arrêt des lettres sous le nom de Mademoiselle.
Quand j'ai dit à ma mère que je me souviens bien, oui, que j'avais un copain ici, elle me disait, mais comment, hein, on ne le connaît pas. Elle avait un petit peu de peur, tu vois, parce qu'elle ne connaissait pas et tout. Mais une fois qu'elle l'a connue, après, elle était très contente. Non, j'ai pas eu des problèmes par rapport à ça.
Oui, la France est quand même bien vue. La France qui dit pays riche, qui dit beaucoup de sous, qui dit voilà quoi. Donc oui, c'est quand même très très bien vu. Oui. Maintenant que je vis en France, ben en fait, oui, ils pensent que j'ai beaucoup de sous, que j'ai une grande maison. Et tout le tralala, quoi. Quand je reviens, ben forcément, il faut ramener des cadeaux pour tout le monde, ce qui n'est pas du tout, pas forcément le cas, quoi, je veux dire. Donc voilà, quoi.
Mes parents sont super cool. Et actuellement, le fait que j'habite toute seule en France, que j'ai pas ma famille, mon entourage, mon environnement social et culturel, au fait, marocain autour de moi, fait que bah, ça n'a pas d'incidence. Enfin, je l'ai un peu dit tout à l'heure. Et du coup, de fait, par exemple, ce genre de questionnement, je pense, il serait beaucoup plus exacerbé chez ma famille si je présentais la personne avec qui j'étais, qui serait blanche, et que je dirais, et en plus, je veux pas me marier, et en plus, j'ai pas envie d'avoir d'enfant. Bah, du coup, peut-être que. Ouais, voilà, je pense que là, la question de la couleur ou de l'origine géographique, ou. Bah, elle se poserait beaucoup plus, au fait.
Mes parents ne connaissent pas encore que j'habite avec un Français. Au Japon. Peut-être le mariage entre étrangers, c'est pour certaines personnes qui ont une vieille génération. C'est un peu difficile de faire comprendre. Donc, nous n'avons pas encore expliqué devant mes parents. De plus, au Japon, il n'y a pas de. Système Pax bien comme ça, concubinage. Peut-être si un jour on se marie, je vais dire à mes parents, oui, mon mari est français, en fait, comme ça. Avec la famille de mon petit ami, j'ai eu de la chance. Et ils sont très compréhensibles. Donc, au début de 2 mois et demi, nous avons habité chez l'appartement de la mère de mon petit ami. Puis on a communiqué beaucoup. Je n'ai pas parlé suffisamment en français, mais la mère est la mère. Donc, même si je ne comprends pas, elle a essayé de m'expliquer plusieurs fois, facilement. Vraiment, je trouve que j'ai eu de la chance.
Ils m'ont accueillie, ils m'ont acceptée. Je me dis, ils m'ont acceptée comme ils ont pu. Hein, je veux dire, non, je ne peux pas dire qu'ils m'aient rejetée ou quoi, mais je ne vais pas dire non plus. Qu'ils ont eu une attention particulière pour d'où je venais. C'est correct. Voilà, je ne peux pas dire autre chose, c'est correct.
J'ai pour dire que maintenant, c'est très très bien. Mais avant, ça a commencé doucement. Tu vois, c'était d'abord, c'est vrai que j'arrivais et ils ne me parlaient pas beaucoup, tu vois, j'arrivais, c'était juste pour aller à un repas, tu vois. Bon, on parlait un petit peu. Mais maintenant, je pense que ça a changé après que j'ai eu Maïtani, ma petite-fille. Mais c'est parce que chez moi, c'est un fort lien avec la famille.
Mon copain, il vient d'Arras, c'est originaire du Pas-de-Calais. En fait, quand j'ai rencontré mon copain, si tu veux, je l'ai dit à ma mère.
Ouais.
Et elle, ça lui a fait un choc, si tu veux. Parce que je sais pas si c'est parce qu'il était blanc ou quoi que ce soit. Ouais. Mais elle n'était pas prête, elle me dit oui, n'oublie pas que tu es partie étudier. Du côté de ma mère, c'était très, très rigide et très protecteur peut-être aussi. Et moi, ce que j'ai trouvé agréable aussi dans cette relation, du moins que je trouve toujours agréable si tu veux, c'est que du fait qu'on ait deux familles qui ont deux systèmes d'éducation différents, deux façons de percevoir la vie aussi. Parce que ma mère, elle m'a élevée seule. La mère les parents de mon copain, ils sont encore ensemble, sont mariés depuis 35 ans. Du moins, il y a vraiment un décalage total. Ma mère, elle a plus tendance à pas du tout faire confiance aux gens, tandis qu'ils sont ouverts, ils te laissent le temps de te montrer un peu, et après on verra. Mais au moins, il laisse la chance, si tu veux, que les choses se fassent tout doucement, quoi. Et moi, ça m'a beaucoup apporté, si tu veux, parce que maintenant, je suis un peu plus sereine. Je suis mieux, quoi, dis-moi. Je sais pas comment expliquer, quoi, mais je suis mieux. Et c'est vrai que chez nous, dans ma famille, si tu veux, ça pose encore problème par moment, quoi. C'est pas... Là, j'ai dit à ma mère, par exemple, que bientôt, on allait arriver au mois de mars. Je lui dis, est-ce que tu pourrais nous héberger? Donc ça, c'était au premier coup de fil, elle me fait... elle est restée 30 secondes sans parler, quoi. Bon, il n'y a pas longtemps, elle m'a dit, bon, normalement, ça ne posera pas de soucis, mais je trouve que, si tu veux, c'est désagréable vis-à-vis de mon copain, parce que moi, si je partais toute seule, elle m'aurait même pas fait ce caca nerveux, quoi, dis-moi. Et je me rends compte, même à travers le truc qu'elle capait, là, que les gens, ils sont restés vraiment par rapport à la période d'esclavage et tout ça, et qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de souffrances cachées, mais qui... C'est des plaies mal placées, si tu veux, quoi. C'est de la méfiance, mais si tu veux, comme c'est mal placé, tout de suite... Mais je sais, quand on va arriver, par exemple, moi, par moment, je vais me prendre des réflexions, quoi.
Les femmes de la famille de Wallis. C'est pas ma belle-sœur foutounienne qui, elle, avait carrément mis un veto sur mon arrivée. Donc, elles m'ont accueillie comme elles accueillent n'importe quelle étrangère. Étrangère, mais... copine, amie de quelqu'un d'important pour eux. Donc j'ai été accueillie comme elles auraient accueilli n'importe quelle Wallisienne dans la même situation que moi, sachant quand même que je n'étais pas mariée, donc avec des colliers de fleurs. Elles m'ont tout de suite habillée, parce que la tradition là-bas, c'est d'habiller le voyageur. Là, elles ont été vraiment, notamment, j'ai un très bon souvenir de Coletti et Otilia, qui elles, vraiment, me donnaient tous les codes, quoi. Elles m'expliquaient tout, quoi. Comment se laver, comment manger... Parce que pour manger avec les mains, il ne faut pas croire qu'il y a un code. Hein, il y a une façon polie de manger avec les mains. Elles ont été très accueillantes. Hein. Et après, j'en ai discuté avec plus tard avec Coletti et Odile, je pense. Et là, elles m'ont dit qu'elles avaient peur, en fait. Elles ne savaient pas, une Européenne, pour elles, elles se demandaient comment j'allais réagir, sachant qu'elles avaient quand même une idée un peu... parce qu'il y avait quand même une salle de cinéma à l'époque. Alors bon, elles avaient une représentation, elles, de la femme française et européenne, probablement quelqu'un qui vivait dans le luxe, avec vaisselle, argenterie, machin. Alors qu'elles, elles avaient à peine des assiettes en... comment on appelle ça, là ? En pyrex.
À la maison, on parlait polonais, mais du coup, quand ils ont commencé à fréquenter des gens français... Eh bien, on commençait à parler un petit peu polonais, un petit peu français. Même maintenant, quelquefois, on parle un petit peu polonais, mais c'est plus français, quoi.
Et du coup, vous me disiez qu'à l'école, il y avait quelque chose de spécial pour les enfants de polonais ?
Ah oui, oui, oui. Il y avait une semaine, une journée par semaine qu'ils allaient apprendre le polonais.
Oui. Mais c'était un choix de votre part de la
vie. Oui, j'étais contente.
Il n'y a pas de raison que je ne partage pas ma culture d'origine avec mes enfants.
Et ça va passer par quoi, enfin,
par tout, par...
Enfin...
Oui, par la nourriture, par les traditions, des petites choses qui sont très, très... qu'on est habitué à faire la fête, la façon de faire la fête, la façon de raconter des histoires, des petites histoires, beaucoup de choses, quoi.
Le fait d'avoir migré, bon, je voulais absolument que ma gamine ait une culture mixte, hein, le plus possible, puisque sachant que moi, étant française, je ne pouvais quand même pas tout lui donner du côté wallisien. Donc elle a toujours été en contact avec des amis wallisiens, mais aussi européens. Hein. Comme je l'ai dit, elle choisissait. Hein.
Si tu veux, je ne leur apprendrai pas le créole comme ça, parce que déjà ici, je ne le parle pas vraiment. Parce que c'est vrai que par rapport à ta situation dans la vie, dans le magasin, tu t'exprimes pas en créole, t'es en métropole, tout le monde parle français, donc voilà. C'est, déjà, ça, c'est pas possible. Après, pour se raconter des blagues et tout, oui, on parle en créole. Mais mes enfants, s'ils veulent parler créole, on ira là-bas, voilà. Mais je leur apprendrai deux, trois mots, mais ce sera pas... ce sera pas un moyen d'expression dans la maison, quoi. Mmh. C'est pas comme si, si tu veux, c'est pas comme si je décidais de leur apprendre l'anglais ou l'espagnol ou l'allemand, quoi. Mmh.
Pour les prénoms, donc j'ai donné des prénoms plus de chez moi parce que j'avais un peu besoin de repères, en fait. J'ai jamais réfléchi trop, mais je crois que c'est maintenant je me dis que c'était ça. Tout en donnant quand même des prénoms qui passent. Hein. Maintenant, c'est vrai qu'actuellement, je m'aperçois que beaucoup de Maghrébins, je ne sais pas si c'est valable pour les autres émigrés, donnent des prénoms français pour éviter que les enfants souffrent du racisme. J'avoue que j'étais pas du tout dans cette affaire-là. C'est-à-dire que moi, pour moi, il n'y avait pas de racisme. Franchement, c'est quelque chose. En 84, donc ça fait 25 ans. Mm-hmm. Mais moi, ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Mm-hmm. Peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, peut-être j'aurais fait comme ces gens. Peut-être aussi parce que je venais d'arriver, donc je connaissais pas la France, donc peut-être que j'idéalisais, hein. Peut-être que j'aurais fait autrement si j'avais vécu 20 ans, que j'avais vu certaines choses. Je veux dire, ça ne fait pas avancer, comme on dit, le schmilblick. Mais aussi, comme je t'ai dit, je comprends parfaitement. Après, les principes, des fois, ils ne tiennent pas devant la vie.
Bon Dieu, passez mes à mon pays là. Là, où on est souffrant, ça pays là. Si entreprise a déposé clé là. Les hauts mettez-nous tout dans la rue là. Bref, en pays là. Moi je dis bref, en pays là. L'économie bloquée en pays là. Voyez lumière ainsi les travailleurs. Quand il lumière tout vous les décidez. Ensemble quand nous trouver en solution. Fermé en pays là, marchandise à trop cher en pays là, ça qui en haut yo bien foutu pas mal, ouais ça qui en bas c'est yo qui tini mal, Guadeloupe paye un goût mais pour ça qui taille, Martinique est goût mais pour ça qui taille, Guyane la goût mais pour ça qui taille. Admiral, les travailleurs descendent dans la rue là. Et yo voyez mon blow arrêter ça. Voyez respecter nega pays là. C'est si femme bouillante là qui a dit ça. Allez jouer bonjour guitare pour porter la voix. Répétez les mots, cette femme au tepio. Mademoiselle la ville a dit.
Signification dans le mot intégration, je trouve. Le premier, c'est bien s'adapter, m'adapter dans la coutume française. Donc, un peu devenir comme française. Mais le deuxième sens intégration, c'est pour devenir un peu en française, il faut jeter un peu la partie comme japonaise. Donc, c'est le mot intégration, c'est le mot ambivalent pour moi. Est-ce qu'il faut jeter dans mes éducations, dans les coutumes, jusqu'à quelle partie, jusqu'à comme ça, donc c'est toujours conflit dans mon esprit.
De toute façon, moi je pense pas que quand on arrive d'une culture étrangère, et ça, ça vaut à mon avis pour les gens qui viennent ici, il faut leur donner, faire en sorte qu'ils puissent s'intégrer un minimum, hein, c'est-à-dire leur donner les moyens de vivre, d'éduquer leurs enfants, enfin de vivre quoi. Mais en même temps, on peut pas attendre d'eux qui renoncent à tout quoi, de ce qui fait leur culture. Et heureusement, je vois pas. Moi, si on m'avait obligé à penser vraiment complètement comme les Wallisiens, je sais pas si j'aurais survécu quoi.
S'intégrer, pour moi, se fondre aussi dans la masse, se fondre dans la masse et quelque part, je sais pas trop exactement ce que ça veut dire finalement, en fait, s'intégrer.
Qu'est-ce que t'évoques le terme intégration ?
De la merde. intégration, c'est un terme que j'ai jamais... pour moi, ça a une connotation super négative. J'ai jamais compris ce terme. Je le refuse de tout mon être, quoi. Enfin, je refuse de m'intégrer à quoi que ce soit. Clairement, en étant une personne socialement reconnue comme femme marocaine... comme étant une personne pauvre, enfin je suis précaire pour l'instant, je suis étudiante et j'ai pas trop de sous, comme étant reconnue comme quelqu'un de marginal par rapport aux codes sociaux, qui veut pas être dans les mêmes normes, entre guillemets, que d'autres gens, et bah, moi la société, elle me renvoie que des choses violentes et j'ai pas envie de m'y intégrer à cette société, que ce soit d'un point de vue de la race, entre guillemets, du sexe, de la classe, j'ai pas envie de m'intégrer, moi j'ai plutôt envie de désintégrer la société, au fait, et de vivre dans une société qui me ressemble, et d'avoir un projet de société qui nous ressemble et qu'on aura fait ensemble. J'ai certainement pas envie de m'intégrer selon les normes d'intégration à la française, où pour s'intégrer, il faut connaître les paroles de Johnny Hallyday, et puis connaître le dernier album de Michel Sardou, et bouffer de la baguette, enfin si c'est ça l'intégration, je la refuse complètement, en fait.
S'intégrer c'est respecter les lois du pays où on vit. C'est normal, hein, on serait dans notre propre pays, on aurait à s'intégrer. Donc ça me paraît normal. Maintenant, si ça veut dire renoncer à tout ce qui nous a construit finalement, à tout ce qu'on est, non. Et y compris la religion pour certains. Par contre, c'est insupportable d'entendre des gens te dire, je parle au niveau politique, des choses du genre la France, tu l'aimes ou tu la quittes. D'abord, c'est quoi ? Ça veut dire quoi, aimer la France déjà ? Ça veut dire quoi ? Les gens ou le climat ou... Ben, la France, il y a des gens qu'on aime en France, il y a des gens qu'on n'aime pas. Il y a des gens... Si on ne peut pas comme ça, tu prends tout, en fait. Tu prends tout, c'est tout ou rien. C'est à prendre ou à laisser... telle qu'elle, c'est jamais comme ça. Partout, c'est jamais comme ça. On doit pouvoir critiquer, ça veut pas dire qu'on n'aime pas.
Je fais la différence entre le mot intégration et le mot inclusion. Parce qu'intégrer, tu peux intégrer n'importe qui. Mais après, est-ce que cette personne elle va être vraiment inclue dans la société ou dans l'éducation ou dans n'importe...
Et qu'est-ce qui fait qu'on est inclus ou pas ?
Bah, c'est l'acceptation de la différence, c'est l'acceptation de la diversité, c'est accepter qu'il y a des gens différents partout, que chaque personne elle a ses compétences, sa culture, sa langue, et que c'est tout fait valorable. Voilà, c'est ça. inclus. Ça ne se fait pas, je pense, assez facilement, non. Mais je pense que moi aussi, j'ai... Comment dire... des fois, oui, je me sens inclus. Mais des fois, tu vois que toujours, il y a un côté qui... Bon, tu es étrangère, toujours. Tu es toujours... Bah, tu es toujours étrangère.
À quel moment tu peux dire que tu es intégrée, quoi ? Est-ce que c'est quand tu as des amis ? Est-ce que c'est quand tu n'en as pas ? Est-ce que c'est quand tu reçois un texto ? Ou est-ce que c'est quand tu reçois une carte ? À quel moment on peut savoir qu'on est intégré, quoi ? Je veux dire, c'est pas... T'as intégré, bah... Ouais, moi je me sens intégrée, je me sens bien dans mon corps, quoi. J'ai intégré dans mon corps. Par moment, du moins... Ouais, pour moi, la notion d'intégration, c'est quand t'es accepté, du moins, si t'es accepté ou pas, quoi. Mais c'est pas toi si tu t'acceptes, du moins, c'est pas... Ouais. Si toi, tu es en accord avec toi-même, c'est bon. Pour moi, t'es intégré, quoi. Après... Okay. Après, il faut, du moins, parce que ça, c'est vraiment, ouais, la notion d'intégration, c'est par rapport à soi et par rapport aux autres aussi. Donc, ça peut être ambigu par moment pour certaines personnes, quoi, du moins.
Ouais,
je sais pas, le mec qui est en tôle, il est intégré aussi, quoi. Mmh. Il est dans sa cellule, il est à matricule, il a... Ouais, on est tous répertoriés, en fait. Donc, ouais, quelque part, on est intégrés, tous. Mmh. Ouais, on est intégrés. Voilà, c'est ça. Ah, c'est ça, ouais.
Ouais.
C'est okay. Ça, l'intégration. Voilà.
ずっと飛んでゆくようにずっと飛んでゆけど海出ても届く
Vous êtes toujours sur Radio Campus 106.6 et vous écoutez Elle Cause. Alors, dans ce documentaire, vous avez entendu trois chansons qui sont dans l'ordre. Giovanni Marini, qui a interprété donc La Manifestazione in cui morì Zibecci. Puis après, Jocelyne Labille, qui a chanté Grève. Pour préciser, c'est une chanson qui a été chantée pendant les manifestations en Guadeloupe et en Martinique, pendant les grèves, en janvier et février 2009. Et enfin, les japonaises Ex-Girl, avec le titre Etakori no Otokotu. Et je m'excuse énormément auprès de nos amis italiens et japonais pour la prononciation. Et tout de suite, on va passer donc aux commentaires.
Alors, un grand merci déjà à toutes les femmes qu'on a interviewées, qui nous ont permis de récolter l'ensemble de ces témoignages. Donc, on a dirigé ces témoignages sur des thèmes qui nous intéressaient, des sujets qui nous semblaient généralement peu abordés aussi. Donc, le choix de ces thèmes s'est fait en collectif. Mais du coup, ça a été à double tranchant, puisque tout n'a pas pu être abordé et les propos des femmes interviewées n'étaient pas totalement spontanés. Par ailleurs, l'équipe de Elle Cause, dans l'équipe d'Elle Cause, il n'y a qu'une seule fille de migrante. Donc ça signifie aussi que cela a peut-être joué un rôle dans notre manière de construire le documentaire et dans nos interactions avec les femmes interviewées. Ces témoignages ne sont pas exhaustifs non plus, puisque il y a certainement des personnes auxquelles on n'a pas pensé et qui auraient pu nous donner un aiguillage sur la femme et l'immigration. On n'a pas eu, par exemple, de sans-papiers interviewés. Et puis, de toute façon, ce qu'on avait voulu faire, ce n'était pas une vision définitive de la femme migrante, mais plutôt montrer à travers des témoignages le croisement de rapports de domination. Alors, ce qu'on tape d'emblée, c'est qu'aucune des femmes dans les documentaires du mois dernier et de ce mois ne se reconnaissent dans les médias français, à part les maghrébines qui dénoncent une vision plutôt stigmatisante des migrantes. On a aussi entendu des anecdotes qui témoignent d'un racisme mêlé d'un sexisme.
Et de classisme aussi.
Donc ces rapports de force, ces rapports de domination, il nous semble que c'est important de revenir sur l'histoire coloniale passée, qui a eu des conséquences, qui a des conséquences présentes et qu'on va un peu développer.
Oui, effectivement, parce que aujourd'hui ces questions sont très très peu abordées. Sous un angle assez particulier, puisque, paraît-il, il vaut mieux parler des bienfaits de la colonisation, et en particulier dans nos manuels scolaires. C'est-à-dire qu'il ne faut pas évoquer les massacres qui vont avec. On pense aux Indiens Caraïbes, donc massacrés par les Européens. L'esclavage aussi. On entend souvent dire aussi que la colonisation a eu des apports cruciaux en termes d'éducation, de médecine et autres. Et que cela quand même a bien amélioré, voire sauvé la vie des populations colonisées. Alors on avait envie de rappeler qu'il y a concrètement eu des différences de traitement et d'investissement entre la métropole et les anciennes colonies qui sont appelées maintenant collectivités territoriales ou départements français d'outre-mer. Ainsi, en Nouvelle-Calédonie, pendant très longtemps, seule Nouméa, donc c'est au sud de la Nouvelle-Calédonie, c'est une ville, c'est la capitale, proposait des services publics de qualité, égale à la métropole. Voilà. Donc on pense aussi aux Guadeloupéens et aux Guadeloupéennes qui ont fait la grève générale l'année dernière et qui parlaient un peu de tout ça aussi. Il faut savoir aussi, donc, en parlant d'éducation et en termes d'apport, que la totalité de l'enseignement scolaire primaire de Wallis et Futuna est concédée entièrement à la mission catholique. Alors, ceci par une convention signée par les représentants de l'État français et l'évêque du territoire d'outre-mer français. Voilà, donc pour nous, c'est aussi un vestige et aussi une preuve du pouvoir toujours actuel des missionnaires catholiques. À noter d'ailleurs que, bon, ça n'a pas forcément l'air de déranger, pour ceux qui connaissent le cas d'ailleurs, hein, de déranger plus que ça les défenseurs de l'interdiction du port de voile à l'école. Hein. Voilà. Ensuite, la colonisation, c'est aussi affirmer la suprématie de la culture du pays colon sur celle des colonisés, avec destruction des religions préexistantes, par exemple, et dévalorisation des langues des colonisés. On peut penser d'ailleurs aux pirogues, symbole de la fierté et de toute la connaissance sur la navigation des Polynésiens, qui ont été interdites par les colons. Voilà. Et du coup, pour expliquer que la Polynésie soit si étendue, donc peuplée de Polynésiens, donc quand même une bonne partie du Pacifique, on raconte, enfin les colons ont raconté, que ça s'était fait par hasard. Voilà. Et il a fallu donc que des marins, par les traditions orales et les restes de gravures, parce que comme tout a été détruit, c'était quand même un peu compliqué, reconstruisent les pirogues et tentent les voyages, donc sans boussole, mais seulement avec donc les savoirs, pour qu'on se rende compte qu'en fait, non, si ça avait été peuplé de Polynésiens, c'était pas du tout par hasard, mais c'est parce que ils avaient décidé d'aller à certains endroits et qu'ils y sont arrivés sans boussole, avec leur propre connaissance. Donc, de leur culture. Voilà.
La colonisation, elle s'est aussi accompagnée d'une vision utilitaire des colonisés, de la même manière que les pays dits riches ont une vision utilitaire des personnes venant de pays pauvres, entre guillemets. On peut parler des Algériens, des Marocains, des Polonais et plein d'autres, qui ont été et sont toujours acceptés par la France pour construire nos routes, nos bâtiments, servir dans l'armée, s'occuper de nos enfants et de nos parents et grands-parents, dans des emplois précaires, bien sûr, avec beaucoup moins de droits que les Français dits de souche, entre guillemets, ou ceux qui ont la nationalité, comme les cas des sans-papiers en témoignent. On peut aussi parler des essais nucléaires qui ont été faits en Algérie et aussi à Mururoa, en Polynésie, qui sont responsables de plusieurs cancers et autres maladies. Et on peut aussi rappeler que aujourd'hui encore, les postes de pouvoir restent en grande majorité attribués aux expatriés ou aux descendants de colons dans les colonies. Enfin, dans les ex-colonies. Donc on peut aussi rappeler que l'indépendance de l'Algérie a été arrachée à la France dans le sang et la terreur. Et l'histoire coloniale reste quand même très méconnue, puisque écrite par les colons, justement.
Voilà, donc ce petit tableau-là qu'on a fait de la colonisation n'est pas succinct. Mais il est intéressant quand même de voir que l'esprit un petit peu reste malgré tout ancré dans nos têtes. Voilà, ce regard se prolonge sur les populations dites issues de l'immigration de manière individuelle, avec les stéréotypes. Par exemple, la vision qu'on a souvent des femmes maghrébines qui sont forcément soumises, et puis des hommes non blancs qui sont perçus très souvent comme des brutes, épaisses, enfin voilà. Et on peut même relever qu'on trouve des traces dans les œuvres dites artistiques. Alors, on pense à Michel Sardou et son temps béni des colonies. On peut aussi penser à la publicité, à certaines publicités. Hein. Bon, il y en a plein d'exemples, mais un exemple qui n'est pas très connu, vous connaissez sûrement Vahiné. Donc, Vahiné s'est gonflé, en sachant que Vahiné, en fait, Vahiné, ça veut dire, c'est un terme tahitien qui signifie femme. Voilà.
Alors on va faire une petite pause musicale avec Nina Simone, avec le titre For Woman, qu'elle a écrit et interprété. Elle a fait la musique aussi, et dans cette chanson elle parle de quatre femmes de couleurs de peau différentes et qui subissent des dominations des blancs. Et cette chanson a été interdite sur les radios à l'époque.
My skin is black. My arms are long. My hair is woolly. My back is strong. Strong enough to take the pain inflicted again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah. My name is Aunt Sarah. Aunt Sarah. Skin is yellow. My hair is long. Between two worlds, I do belong. My father was rich and white. He forced my mother late. What do they call me? My name is Sophronia. My name is Sophronia.
Enfin, ça n'est pas apparu dans le documentaire qu'on a passé, mais on avait envie aussi de vous parler du fait que ça peut être aussi difficile donc de partir de son pays, donc de migrer et de quitter sa famille, de quitter sa culture et de perdre ses habitudes de vie. On pense notamment aux femmes et aux jeunes filles qui ont suivi leur mari, donc venu travailler en France lors du regroupement familial donc instauré par le gouvernement Giscard. Voilà. Donc ensuite, on avait envie aussi de préciser que il y a des choses qui se superposent, qui peuvent faire, qui peuvent aussi rajouter à la difficulté, ne pas maîtriser la langue, ne pas maîtriser la culture, par exemple juste la monnaie, ça a l'air tout bête comme ça, mais quand on ne maîtrise pas, voilà, il faut un temps d'adaptation. Et ça arrive aussi que des femmes analphabètes cumulent aussi tout ça. Donc dans ce cas-là, on peut très vite se sentir isolé. Et on avait aussi envie de souligner que voilà, il y a des contextes qui font que, notamment dans la colonisation, la décolonisation, qu'on peut être amené à vivre dans un pays qui a dominé le nôtre pendant longtemps. Et ceci peut être vraiment vécu comme une honte et une humiliation. Voilà.
Donc, excusez-moi encore. On voulait aussi, ce que le documentaire évoque aussi par rapport aux normes de beauté, c'est que la blanche, c'est une référente en termes de beauté. Et aussi, ce qui est blanc et pur, c'est aussi intériorisé, du coup, pour ces femmes-là, des normes dominantes et en souffrir. Et l'immigré femme est infantilisée par les sous-chiennes, entre guillemets. On lui dit souvent ce qu'elle doit faire, ne pas porter le voile, s'habiller à l'occidental, avoir un mode de vie occidental, oublier ses origines, s'effacer face à la culture dominante, comme à un enfant à qui on dicterait la manière dont il doit se comporter. L'immigrée vue comme une mineure à la botte de son mari et que l'on doit absolument protéger, d'où l'émergence de mouvements féministes composés en majorité de ces femmes. Ces mouvements redonnent la parole confisquée aux principales intéressées. Mais la noire, ou la beurette, entre guillemets, fantasmée comme au bon temps des colonies, et sont fantasmées comme au bon temps des colonies encore aujourd'hui, avec tous les clichés qui circulent sur les exploits sexuels des noirs, etc.
Pour finir, on peut aussi, il faut finir aussi avec le fait que les femmes migrantes, ce ne sont pas des clichés ou des êtres passifs. Beaucoup de femmes migrantes qui viennent d'autres pays, donc, ont agi dans leur pays, par exemple, durant les guerres de décolonisation. Et certaines s'investissent aussi dans des associations en France. D'autres n'ont pas hésité à intégrer des champs dits masculins tels que la politique. D'ailleurs, tout l'ensemble des femmes qu'on a interviewées, finalement, on nous montre une vision positive de l'immigration, une immigration plutôt choisie, qui leur a apporté beaucoup dans leur développement d'elles-mêmes. Donc, elle nous montre plutôt l'immigration comme une richesse.
Eh bien, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vous rappelle juste notre mail, lcause@herbefolle.org. Tout au pluriel, elle cause et herbe folle. Et le blog, elle cause, au pluriel donc, .blogspot.com. Voilà, elle cause.blogspot.com. La semaine prochaine, à la même heure, vous serez avec La Voix sans maître. Et tout de suite, c'est V'là le travail. Merci, au revoir.
Au revoir. Juste à préciser que le mois prochain, vous aurez droit donc à Elle cause, mais on pourrait dire plutôt elle chante, parce que ce sera une émission musicale. Voilà.
À bientôt.
Au revoir.